Et le fruit de l'esprit, c'est la joie. Il fait suite donc au message que nous avions vu sur le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et aujourd'hui, ça sera le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le texte de base, c'est Galates 5, 22. Alors dans Galates 5, 22, je lis, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Nous allons parler de la joie aujourd'hui. Et dans 1 Thessaloniciens 5, nous avons cette exhortation de l'apôtre Paul qui dit « Soyez toujours joyeux. » Soyez toujours joyeux et j'aimerais que nous puissions partager ensemble d'abord qui est la personne qui a dit ça. Parce que si par exemple quelqu'un pour qui tout va bien dans la vie, tout va bien à tous égards, et il dit à quelqu'un qui est malheureux, eh bien sois toujours joyeux, tu n'as qu'à être heureux et joyeux. On dirait mais ça ressemble à quoi? Lui, pour lui c'est facile d'être joyeux, tout va bien pour lui. Mais pour moi, qu'est-ce que j'ai pour qui me procure de la joie? Mais j'aimerais vous montrer que celui qui a dit aux autres « Soyez toujours joyeux », eh bien, il avait une vie difficile. Donc, il y a pour nous quelque chose à découvrir. Il y a ici un secret, pour ceux qui ne savent pas, mais une puissance spirituelle qui peut agir dans notre vie. Et j'aimerais tout de suite vous citer le verset que vous connaissez certainement très bien tous. C'est Néhémie 8, 10 qui dit « Que la joie de l'Éternel sera votre force ». C'était un moment, Néhémie, je fais juste le contexte, le peuple d'Israël était revenu de l'exil, ils avaient été dispersés, emmenés en captivité à Babylone à cause de leurs péchés. Ils sont revenus de leur exil, ils étaient là et ils ont voulu reconstruire Jérusalem, ils ont voulu redonner corps un peu à leur société, à leur ville, à leur culte et à tout le reste. Et on a commencé... Quelle est la meilleure façon de reconstruire? Eh bien, c'est de reconstruire avec Dieu et avec sa parole. Et quand nous voulons reconstruire quelque chose, il est dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ce qu'on construit sans Dieu, des fois ça s'écroule. Alors on veut le reconstruire, mais comment faire le reconstruire pour que ça ne s'écroule pas une deuxième fois? C'est de le construire avec Dieu. Donc, quand on veut construire avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut suivre son plan. L'apôtre Paul a dit à un moment, « J'ai fait comme un sage architecte. J'ai construit sur le fondement qui est Jésus-Christ. » Donc, suivre le plan de Dieu, c'est suivre ce que sa parole nous dit. Alors, ils ont commencé à lire dans la parole de Dieu. Mais seulement, ce qu'ils ont lu dans la parole de Dieu, les a dans un premier moment pas encouragés, mais ça leur a montré l'étendue de leur péché et de leur situation telle qu'ils étaient. Alors, ils ont été accablés. Et ils ont commencé à pleurer. Et on leur a dit cette parole, on leur a dit, ce n'est pas le moment de pleurer maintenant et de vous lamenter, parce que la joie de l'Éternel sera votre force. Vous voyez, dans le naturel, ils avaient toutes les raisons de pleurer parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Mais on leur a dit cette parole qui vient de l'Esprit de Dieu et dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Et donc, nous voyons déjà tout de suite ici, que cette joie de l'Éternel n'est pas simplement quelque chose de naturel, puisqu'elle ne veut pas dépendre des circonstances. Donc quand l'apôtre Paul disait « Soyez toujours joyeux », on va voir un petit peu que l'apôtre Paul a connu beaucoup d'épreuves, de souffrances et de tristesse. Il a écrit aussi dans Philippiens, on va ouvrir notre Bible à Philippiens maintenant, parce qu'on va lire plusieurs passages, donc je vous invite à regarder aussi avec moi, celui qu'on connaît très bien aussi, Philippiens 4:4. Quand nous avons parlé du fruit de l'esprit qui était l'amour, nous avons dit « L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. » Romains 5:5. Eh bien aujourd'hui, c'est Philippiens 4:4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » C'est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et là encore, je veux insister, parce qu'il y a tellement de gens, une fois ils sont en haut, tout va bien pour eux. Quand quelque chose ne va plus, ils sont de nouveau tout en bas. En haut, en bas, en haut, en bas. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous que nous connaissions ce genre de montagne russe. Des fois, on dit aussi comme un yo-yo, en haut et en bas. Si nous nous laissons conduire par la chair et nos sentiments, nous allons expérimenter ça, et nous l'avons tous expérimenté. Mais il y a quelque chose de mieux de la part de Dieu pour nous. C'est de commencer à expérimenter la vie dans l'esprit et de pouvoir avoir la joie du Saint-Esprit même lorsque des choses ne vont pas. Regardez maintenant avec moi Philippiens 2, 25. Il parle d'un frère qui s'appelle Épaphrodite, qui était son compagnon, compagnon d'œuvre, parce qu'ils travaillaient ensemble pour l'Évangile. Et cet homme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il a été très malade. Alors il dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'aviez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il n'avait pas juste un rhume ou une petite maladie, il avait une maladie grave. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, il nous est dit. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Voyez le même apôtre Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », qui écrit « Soyez toujours joyeux », il a connu dans sa vie tristesse sur tristesse. On pourrait dire ça, ce n'est pas une situation enviable. Eh bien, dans toutes les oppositions qu'il a connues, dans tous les moments difficiles, il a fini par apprendre ce principe spirituel que s'il veut rester debout, s'il veut être fort spirituellement, il n'y a qu'une façon. C'est de recevoir cette joie de l'Éternel. C'est pour ça qu'il encourageait les Thessaloniciens en leur disant « Soyez toujours joyeux ». Il ne leur parlait pas d'un sentiment. Il ne disait pas de rigoler toute la journée. Ce n'est pas de ça. Ça, c'est seulement des choses extérieures qu'on peut voir par la suite. Mais il disait « Avant tout, apprenez à puiser auprès de cette source de force qu'est la joie de l'Éternel. » La joie de l'Éternel, c'est par exemple la première chose que l'on expérimente en rencontrant Dieu, c'est la joie du salut. Avant, on est écrasé par nos fardeaux, par nos péchés, par tout ce qu'on a eu. Et quand on découvre la vie en Jésus, eh bien, qu'est-ce qu'on expérimente? La joie du salut. Enfin, on est dans la famille de Dieu, on est accueilli par le Père et on a la joie du salut. Cette joie, on peut la perdre, bien sûr. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir cette exhortation « Soyez toujours joyeux » et d'avoir cette exhortation « La joie de l'Éternel sera votre force ». Il avait tristesse sur tristesse, il nous est dit. Alors il dit la suite « Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le voir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Donc il y avait des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul était triste. Il avait bien sûr des fois des compagnons qui étaient malades ou qui ne pouvaient plus le suivre, mais il avait aussi d'autres raisons. C'est que certains, ce n'était pas qu'ils étaient malades, mais c'est qu'ils n'étaient pas à l'œuvre avec lui. Ailleurs, on lit dans la Bible, on dit « Tous m'ont abandonné par amour pour le siècle présent. » À un moment, lui qui avait une telle tâche devant lui, annoncer l'Évangile, il s'est retrouvé tout seul. Quelque part, il écrit « Tous m'ont abandonné. » À un moment, tous l'ont abandonné. Et donc, quand il écrit aux Philippiens, rappelez-vous qu'il était en prison à ce moment-là. Il était en prison, donc encore une fois, souffrance, affliction. Quelque part dans la Bible aussi, l'apôtre Paul donne la liste de tout ce qu'il a traversé. Combien de fois ils l'ont lapidé, ils l'ont battu, ils l'ont jeté en prison. Il a fait 3 naufrages dans sa vie. Vous imaginez, 3 fois il a fait naufrage. Peut-être quelques-uns étaient une fois sur quelque chose de flottant, sur une piscine ou un lac ou la mer, et on tombe à l'eau. Mais ça c'est pour rire, tout de suite après on grimpe de nouveau sur notre bateau ou que sais-je. Mais pour lui, il a vécu 3 naufrages. Ça veut dire 3 situations où le bateau a coulé. Et ce n'était pas n'importe quoi. 3 fois, il a vécu cette situation dans sa vie. Donc, vous pouvez imaginer un petit peu tout ce qu'il a dû traverser et souffrir. Et Jésus avait dit de lui à Ananias, tout au début de son ministère, « C'est un instrument que j'ai choisi et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et en souffrant pour l'Évangile, il n'a fait rien d'autre que de suivre Jésus lui-même. De Jésus lui-même, on dit dans Ésaïe 53 qu'il n'avait rien pour nous plaire, rien pour attirer nos regards. C'est une description prophétique du Messie. Voilà le Messie, à quoi il va ressembler. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, le visage, nous l'avons dédaigné, nous ne lui avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Sur Jésus lui-même, il a été mis toutes les souffrances et tous les péchés de l'humanité, et on estime qu'à ce moment, eh bien, son corps a dû être dans une situation horrible. Il a dû être défiguré. Et l'apôtre Paul, lui, au travers des souffrances, quand vous imaginez, par exemple, quand il a été battu, battu des 40 coups moins 1, vous savez, les fameux 40 coups moins 1, c'est que les Romains punissaient leurs prisonniers en leur donnant 40 coups, et les Juifs voulaient montrer qu'ils avaient plus de compassion que les Romains, alors ils ne faisaient que 39 coups, ils s'arrêtaient à 39. Mais les 39 étaient donnés avec un fouet où il y avait plusieurs lames, lestées de ferraille et de tout le reste, qui déchiraient la chair, littéralement. Et on ne faisait pas attention à où on frappait. Et donc, il, lui-même, l'apôtre Paul, a connu de grandes souffrances, mais il a appris. C'est ça qui est important. Quelles que soient les choses que nous avons traversées par le passé, petites, grandes souffrances, Jésus les a portées pour nous, premièrement. Et deuxièmement, nous pouvons maintenant apprendre. Et c'est ça qui est important. Parce que faire une erreur, commettre un péché, il y a toujours du secours auprès de Dieu. Mais quand on recommence toujours les mêmes erreurs, c'est que nous n'avons rien appris. Or, nous voulons être à l'école de Dieu. Être les disciples, ça veut dire qu'on suit un maître et on suit ses enseignements et on apprend de lui. Recevez mes instructions, et il est dit. Donc, l'apôtre Paul a appris. Donc, nous devons aussi répondre à cette question, comment être joyeux quand ça ne va pas? Car quand ça va, on ne se pose pas la question. Mais nous voulons apprendre à être joyeux quand ça ne va pas. Nous ne voulons pas juste donner des réponses aux gens autour de nous en disant, eh bien, tu n'as qu'à être joyeux, et c'est la réponse à tout. Nous avons dans la parole de Dieu l'épître de Jacques qui nous parle de quelque chose où il y a souvent des confusions. Alors nous allons prendre Jacques au chapitre 5, au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il est dit qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente ou agissante du juste a une grande efficacité. Donc vous voyez, dans les différentes circonstances de notre vie, il n'y a pas toujours les mêmes réponses de la parole de Dieu. Il n'est pas dit, si quelqu'un est dans la souffrance, eh bien il n'y a qu'à chanter et puis ça ira mieux. Vous voyez, il est dit qu'il prie pour se donner à Dieu, pour voir quelle est l'origine, pour voir comment s'en sortir. Il est dit que si quelqu'un est dans la joie, eh bien qu'il chante des cantiques. C'est une des façons que Dieu a préparées pour nous, où nous puissions exprimer notre joie. Que l'on soit chrétien ou non chrétien, les gens chantent parce qu'ils sont joyeux. Mais nous allons voir que la joie a plusieurs sources différentes. Eh bien, c'est ce que j'aimerais partager avec vous maintenant, c'est qu'on voit un instant quelle est la nature de la joie. La nature de la joie. Dans 1 Thessaloniciens 5, quand nous lisons ce passage « Soyez toujours joyeux », eh bien ça continue, ça ne s'arrête pas juste à cet endroit-là, cela continue. « Priez sans cesse, Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai souvent dit, mais je le répète encore, il est essentiel pour chacun d'entre nous de comprendre l'homme en trois parties, esprit, âme et corps. Si on ne raisonne que sur un ou deux éléments, on passe à côté d'énormément de choses. Mais là encore, pour la joie, vous allez voir ce qu'on va découvrir dans la parole de Dieu ensemble, pour la joie, elle peut se manifester à trois niveaux. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Et les gens confondent souvent les choses. La nature de la joie. Premièrement, quand nous parlons de cette joie, la joie de l'Éternel qui est notre force, la nature de cette joie est spirituelle. Et elle se manifeste au niveau de notre esprit. Vous vous rappelez quand Jésus, à un moment, il avait tressailli de joie par le Saint-Esprit, il nous a dit. Qu'est-ce que c'est tressaillir ? Tressaillir, ça veut dire je suis un peu secoué, je tremble, ou je fais un petit bond, ou il se passe quelque chose, hein ? Il se passe quelque chose au niveau de mon corps. Et pourquoi ? Eh bien, c'est quelque chose qui est plus profond, qui se manifeste. Il y en a qui tremblent de rage. C'est aussi un sentiment tellement violent, bien que ça agit sur leur corps. Eh bien, ici, quand il est dit « Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit », c'est qu'il a reçu, tout à coup, il a vu, et il a eu cette révélation que Dieu était en train de parler à des personnes et de révéler aux enfants ce que des sages et des intelligents, des gens qui raisonnaient, ne comprenaient pas, mais qu'il le révélait à certains. Et cela a produit en lui une joie surnaturelle et il a tressailli de joie. Et l'origine de cette joie était donc spirituelle. Donc, la joie qui se manifeste au niveau de notre esprit, c'est celle qui pour nous sera déterminante pour le reste. Nous voulons toujours aller de l'intérieur vers l'extérieur. Que Dieu agisse au niveau de notre esprit, qu'il inonde après toute notre âme et finalement qu'on ait des bienfaits sur le corps. Esprit, c'est là que se manifeste la joie et c'est une puissance. On a déjà dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Vous l'avez compris maintenant. Eh bien, il y a un autre passage qui nous parle de puissance et qu'on connaît très bien aussi. C'est Proverbe 17:22. Un cœur joyeux est un bon remède. Ça veut dire que si la joie se manifeste dans votre cœur, cela a des effets même jusque au niveau de notre corps. Remède, c'est quelque chose qui sert à la guérison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une puissance. Puissance, puisque ça est capable de guérir. Proverbe 17:22. Un cœur joyeux est un bon remède. Donc, la loi de Dieu, telle qu'il l'a donnée, c'est que la joie de l'Éternel nous procure de la force. Et comment est-ce qu'elle vient ? Eh bien, j'aimerais dire, en citant Romains 10:17, que vous connaissez bien, on va le redire. Romains 10:17, c'est « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Bien, on peut dire la même chose de la joie. La joie vient de ce qu'on entend et de ce que l'on entend de la parole de Christ. Et je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. C'est dans Jean 15, Jésus qui parle à ses disciples et voilà ce qu'il leur dit. Donc Jean 15, c'est ses derniers partages que Jésus avait avec ses disciples, on peut dire dans la dernière semaine, juste avant qu'il aille à la croix. Dans Jean 15, au verset 11, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Vous le réalisez ? Vous le recevez cette révélation de Jean 15, 11 ? Jésus dit « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous. » Il dit « Les paroles que je suis en train de vous dire, c'est pour que la joie de Dieu pénètre en vous. » Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Les paroles que je dis, je les dis pour que la joie de Dieu puisse pénétrer en vous, au niveau de votre esprit, que vous puissiez le recevoir et que votre joie soit parfaite. Parfaite, ça veut dire arriver à maturité, arriver à perfection. Quelle est la différence entre une joie parfaite et imparfaite? Eh bien justement que la joie parfaite, elle ne bouge pas, elle ne nous quitte pas, elle reste, elle demeure. Alors que la joie imparfaite, un coup je suis joyeux, puis je ne suis plus joyeux, parce qu'elle dépend d'autre chose. Si votre joie dépend de la présence de Dieu en vous, de votre union avec Dieu, qu'est-ce qui peut vous enlever cette joie? C'est justement ce que Jésus veut faire ici. Il veut dire, les choses que je vous dis, c'est afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. D'où ce parallèle que j'ai fait avec Romains 10, 15, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La joie aussi, elle vient de ce qu'on entend, mais pas n'importe quoi. Si j'entends des mauvaises nouvelles, des catastrophes, des drames, des accidents, ça ne procure pas de joie, c'est évident. Mais des paroles qui viennent de Dieu, celles-là nous procurent la joie qui vient de Dieu. Donc c'est au niveau de notre esprit. Maintenant, il fallait trouver une autre expression pour la joie au niveau de notre âme. Parce qu'il y a aussi de la joie qui se manifeste. Et ce n'est pas négatif, hein. Il ne faut pas dire la seule vraie joie, c'est celle de l'esprit et le reste ne compte pas. Non, Dieu a voulu qu'elle se manifeste au niveau de notre esprit, pour qu'il puisse se communiquer à notre âme et finalement agir au niveau de notre corps. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'au niveau de notre âme, la joie qui se manifeste, elle dépend des choses que nous voyons. Alors, regardez le psaume 4 au verset 8. Le psaume 4 nous dit quelque chose de formidable pour la personne qui l'a écrit. Parce qu'il a déjà expérimenté quelque chose avec Dieu. C'est quelqu'un qui vivait dans la relation avec Dieu. Il dit, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur moût. » Ça, c'est la joie tout à fait naturelle. On est content parce qu'on a à manger, parce qu'on a de l'abondance. Ce que vous prenez pour la nourriture, vous pouvez le prendre pour n'importe quelle autre chose. Ça veut dire que cette joie, elle est procurée par les choses que j'ai, que je peux consommer. Mais ici, le psalmiste disait déjà que, à cause de sa relation avec Dieu, il a dans son cœur plus de joie que n'en ont les autres. Donc, cette joie au niveau du cœur qui vient de Dieu est plus élevée. Néanmoins, il serait triste de voir que le chrétien, il a moins de joie que celui qui gagne l'auto, ou celui qui est riche, ou qui ne manque de rien, ou que sais-je. Donc, cette joie au niveau de l'esprit, elle doit avoir plus en quantité et plus en qualité. Et elle dépend des circonstances. Parce que quand ils n'ont plus de froment et plus de mou, eh bien il n'y a plus de joie non plus. Et donc nous avons besoin, nous, au contraire, de savoir que si la joie de l'Éternel est notre force, eh bien si quelque chose vient à nous manquer, c'est parce que nous avons la force de Dieu en nous que nous pouvons de nouveau recevoir de Dieu ce qui nous manque. Voyez ? Donc, nous ne dépendrons plus constamment des choses extérieures. Donc, j'appellerai ça la gaieté plus que la joie. Et les méchants aussi peuvent expérimenter cette joie. Elle ne vient pas nécessairement de Dieu. Puisqu'à un moment, il nous est dit que lorsque Judas était venu auprès des anciens et des sacrificateurs du peuple, en disant « Je vais vous livrer Jésus », et il nous est dit qu'ils ont éprouvé une grande joie. Il est évident que cette joie ne venait pas de Dieu. Pourtant, ils ont expérimenté une joie. Ils ont expérimenté ce sentiment d'exaltation et d'allégresse, mais ce n'était pas quelque chose qui était au niveau de l'esprit. Donc, ça, c'était simplement au niveau de leur âme. Donc, c'est important qu'on fasse la différence. Et alors, la nature de la joie au niveau de notre corps? Eh bien, l'expression la plus simple, c'est le rire. Pourquoi nous sommes capables de rire? Pourquoi Dieu nous a-t-il fait comme ça que nous puissions rire? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'expression de la joie. C'est ce qui se manifeste au niveau du corps. J'ai déjà parlé de Jésus qui a tressailli de joie, mais le rire, eh bien, c'est l'expression de la joie au niveau du corps. Ce n'est pas la seule expression, mais c'en est une. D'accord? Et Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble l'ensemble de ce passage dans Luc 10, 17 à 22. Parce qu'en réalité, eh bien, dans ce passage, tout y est, et on va voir la différence entre ces trois choses pour encore une fois insister un petit peu. Luc 10, 17. Les 70 disciples que Jésus avait envoyés sont revenus vers lui et ils revinrent avec joie. Et ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ah, ils étaient joyeux. Alors, est-ce que cette joie venait de l'esprit ou est-ce qu'elle venait de l'âme? Visiblement, elle venait de l'âme. Parce que si le démon leur avait résisté, ils n'auraient pas été joyeux. Hein? Ils étaient joyeux parce qu'ils ont vu de leurs yeux la manifestation de la puissance de Dieu plus grande que celle du diable. Alors ils ont dit, nous sommes vraiment contents, Seigneur, c'est formidable tout ce que nous avons fait en ton nom. Même les démons étaient obligés de se soumettre. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Voyez, si cette joie avait été d'origine spirituelle, Jésus n'aurait jamais dit, il ne faut pas se réjouir de ça. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ça, parce qu'il voyait quelle était la nature de leur joie. Il a dit, si vous restez avec vos yeux fixés sur les événements, maintenant, vous connaissez une victoire. Vous êtes dans la joie. Mais demain, vous aurez peut-être un moment difficile. Vous savez qu'il y avait le lunatique que cet homme avait amené auprès des disciples et puis ça n'avait pas marché. Il a dit, Seigneur, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le délivrer. Alors ce jour-là, il n'y avait pas de joie. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Il a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça, c'est une joie permanente. Parce que le nom ne peut pas être effacé. Celui que Jésus a écrit pour nous dans les cieux, ce nom, il est écrit et c'est une source de joie permanente. Si même rien ne va dans votre vie, rien du tout, rappelez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. Et il y a beaucoup de gens dont le nom n'est pas inscrit. Et ça, c'est aussi une réalité. Il y a des gens qui sont en destination de l'enfer actuellement. Peut-être ils sont plus prospères, plus riches, peut-être même en meilleure santé, peut-être je ne sais quoi. Mais leur nom n'est pas inscrit dans les cieux. Et c'est pour nous la source de joie permanente. Nous avons une place. Jésus l'a dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Notre nom est inscrit là-haut. Il a dit, ça, c'est un sujet de joie. Réjouissez-vous de cela. Et en ce moment même, au moment où il dit ça, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. À ce moment-là, eh bien, il se rend compte que si leur nom est inscrit dans les cieux, c'est que le Père leur a révélé quelque chose. Il leur a révélé, eh bien, la vérité, qu'ils ont besoin de lui pour être sauvés. Et alors il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et la joie du Seigneur nous pousse toujours à la louange. Toujours à la louange et à l'action de grâce. Donc voilà les différents aspects de la nature de la joie. Et maintenant, quand nous sommes dans notre quotidien, eh bien nous avons des fois des épreuves. Eh bien il est bon que notre joie, comme n'importe quelle autre chose spirituelle que nous avons, soit éprouvée pour qu'on voit quelle en est la nature. Vous savez que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 10, il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Donc ça veut dire que ça c'est valable pour l'église de Dieu qu'on est en train d'établir, construire pierre par pierre, pierre vivante. Mais aussi on construit notre propre vie d'abord sur le fondement de Jésus-Christ. Ensuite, comme un architecte avec sagesse, pas n'importe comment. Mais il nous est dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'épreuve qui vient, eh bien, va montrer de quelle est la nature des matériaux qui auront été utilisés. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Ça n'a rien à voir avec le feu de l'enfer. c'est le feu de l'épreuve. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Un peu plus loin, l'apôtre Paul disait, par rapport à son œuvre dans l'Évangile, au chapitre 9, il le disait, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, on peut dire avec joie, eh bien, j'en ai la récompense. Si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Quelle est donc ma récompense ? La récompense est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Donc, tout est éprouvé. Vous l'avez déjà remarqué. Les choses que nous croyons posséder, que nous croyons avoir gagnées spirituellement, eh bien, elles sont éprouvées. Et donc, nous pouvons voir aussi que puisque le fruit de l'esprit, c'est la joie, de voir est-ce que cette joie se manifeste chez moi. Est-ce que quand ça va mal, je sais puiser dans la joie de Dieu pour recevoir de nouveau des forces, ou est-ce que je suis abattu? Regardons que dans les actes des apôtres, les premiers chrétiens, eh bien, ils avaient cette joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Dans Actes 5, au chapitre 5 et verset 41, au début, quand ils ont commencé à annoncer le nom de Jésus et à enseigner, eh bien, ça n'en a pas été bien vu. Au contraire, on les a enfermés, on les a menacés. Et au verset 41, il nous est dit, « Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Donc la vraie joie, ce n'est pas une joie perverse, comme du masochisme, hein, qui est cette perversion à trouver du plaisir dans la souffrance. Ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est une œuvre du diable. Mais ici, il nous est dit que ces gens, malgré le fait qu'on les a quand même battus de verge, hein, et ils n'ont pas caressé, ils ont battu de verge. Donc, c'était une souffrance. Mais malgré cela, ils ont gardé leur joie intacte. Et non seulement ils ont gardé leur joie intacte, mais même dans ce qu'ils ont traversé, ils y ont vu un sujet de joie. Alors, que peut faire le diable contre des gens comme ça? Ce qu'il envoie contre eux, eh bien, ils en trouvent encore moyen de se réjouir. Se réjouir non pas de ce qu'ils ont subi, mais de se réjouir parce qu'ils l'ont fait pour le nom de Jésus. C'est ça qui est important. Il y a eu beaucoup de confusion dans les siècles passés aussi. Il y a un certain christianisme qui a voulu prôner la souffrance et s'identifier à Christ. Nous n'avons pas à porter nos péchés. Jésus les a portés. Nous n'avons pas à porter nos souffrances parce qu'il les a portées. Nous n'avons pas à porter les maladies que Jésus a portées déjà. Nous n'avons pas à nous substituer à lui. Il l'a justement fait pour nous. Lui qui, de justice de Dieu qu'il était, devenu péché, pour que nous, de péché que nous étions, soyons devenus justice, eh bien, nous devons rentrer tout simplement dans cet évangile. Ils étaient jugés dignes de souffrir et cela leur a procuré de la joie. Une autre illustration dans les actes des apôtres, c'est au chapitre 16. Il n'y a pas le mot « joie », mais ça ne fait pas de différence. C'est quand Paul et Silas, eh bien, eux aussi ont été battus de verre, chargés de coups et jetés en prison. Mais il nous est dit, acte 16, 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Ils étaient chargés de coups. Ils étaient là dans une prison intérieure. Les prisons intérieures, c'était vraiment des trous à rats, on pourrait dire. En général, on peut imaginer que c'était froid, c'était humide, ça sentait mauvais. Il n'y avait pas de lumière. Et là, ils étaient enchaînés avec leurs plaies ouvertes, des coups qu'ils avaient reçus. Et ils étaient dans cet état et ils n'étaient pas en train de murmurer, ni de se plaindre, ni de gémir. Ils étaient dans cet endroit en train de prier Dieu et de chanter les louanges à Dieu. Et quand quelqu'un est dans cet état, on peut dire plus rien ne peut l'arrêter. Et Dieu accomplit des miracles. Dieu a accompli un miracle extraordinaire ici, au verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et j'aime bien ce mot « fondement ». c'est-à-dire le fondement même de ce qui veut retenir le croyant, est secoué, ébranlé. Et dans la même mesure, prenez-le pour votre vie à chacun d'entre vous. Si vous êtes au milieu de la nuit, le milieu de la nuit, on peut dire c'est l'heure la plus sombre, hein. Minuit, c'est l'heure sombre. C'est là où se produisent les crimes d'après la légende. Eh bien, à cette heure-là, eh bien, Paul et Silas sont trouvés, chantant, priant, et ils donnent les louanges. Alors, pourquoi je mets en rapport avec la joie? Simplement par rapport à ce qu'on a lu tout à l'heure. On a dit, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. S'ils avaient plutôt voulu gémir ou se lamenter, ils n'auraient pas chanté les louanges à Dieu. Mais ils avaient déjà, à ce moment-là, ils savaient, c'était la bonne réaction. Ils n'ont certainement pas dit, Seigneur, merci pour tous les coups qu'on a eus, merci de nous trouver dans cet endroit misérable. Non, ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Mais ils ont continué à dire qu'ils croyaient toujours en Dieu, qu'ils n'allaient pas maintenant le renier, et qu'ils croyaient en sa toute puissance, et qu'ils le chantaient pour toutes les victoires passées. Et vous savez que louer Dieu pour les victoires passées nous prépare pour les suivantes. David, avant qu'il soit roi, hein, quand il était face à Goliath, eh bien, c'était son attitude. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré, l'Éternel, du lion et de l'ours, celui-là va aussi me délivrer de Goliath. C'est dans nos... Des fois, il ne faut pas regarder en arrière, il faut oublier ce qui est en arrière, mais nos victoires passées sont aussi des moyens où on peut s'appuyer dessus pour dire, Dieu m'a délivré hier, il m'a délivré aujourd'hui, il me délivrera aussi demain. C'est quelque chose qui construit et fortifie notre foi. Donc l'épreuve, même dans l'épreuve, la nature de la joie est décelée. Si c'était juste une joie superficielle, elle n'aurait pas duré. Mais parce qu'elle était surnaturelle, eh bien, on a vu dans ces deux exemples qu'il y avait de la joie. Et maintenant encore autre chose, allons vers la joie la plus élevée. La joie la plus élevée, la joie parfaite, donc c'est celle que on avait déjà lue dans Jean 15, 11. Donc on va revenir dans Jean. Jean 15, 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ça c'est un élément. Et on avait surtout vu que c'est de cette façon qu'elle se manifeste en nous. C'est par la parole de Jésus qui vient en nous, que cette joie est en nous et qu'elle demeure. Et en réalité, ce n'est pas qu'elle soit à l'extérieur de nous, et ça vous le savez bien, que déjà vous êtes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en vous, et que de la même façon que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, la joie de l'Éternel aussi est dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est là qu'est la source. Mais dans Jean 16, nous voyons encore un complément. Au verset 24, Jésus dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Donc si je veux continuer sur ce que j'ai partagé tout à l'heure, quand les disciples avaient puissance et autorité sur les démons, Jésus les avait envoyés avec l'onction de guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, autorité sur les esprits mauvais. Mais on voit que cette joie qu'ils avaient expérimentée, c'est par rapport aux choses qu'ils avaient vues. Mais ils n'étaient pas encore dans cette relation avec Dieu telle que nous l'avons aujourd'hui. Puisque Jésus n'avait pas encore été ni crucifié, ni ressuscité, ni glorifié. Et donc, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il dit, il y avait une période jusqu'à présent. Mais maintenant commence une nouvelle chose. Il y a quelque chose de nouveau devant vous. Quelle est cette chose nouvelle? Vous pouvez maintenant utiliser mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Comme j'ai dit que notre joie peut être parfaite parce qu'on peut se réjouir que nos noms sont inscrits dans les cieux, de la même façon, notre joie arrive à la perfection parce que nous croyons en son nom. Parce que nous avons le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous appartient parce que nous lui appartenons. C'est comme quelqu'un qui se marie, et puis comme il est d'usage, eh bien la femme change de nom, elle porte maintenant le nom de son mari, parce qu'elle lui appartient. Eh bien de la même façon, nous dans notre union avec Christ, puisque nous lui avons donné notre vie, eh bien il nous donne son nom. Nous portons son nom, et nous avons le droit de l'utiliser. Comme quand deux personnes ont un compte joint, ils peuvent utiliser le chéquier et signer l'un ou l'autre. Eh bien, de la même façon, nous pouvons utiliser le nom de Jésus. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et je suis persuadé que cette joie parfaite n'est pas juste le fait de voir la réponse à nos prières. Parce que sinon, c'est nouveau. Si j'obtiens ce que j'ai demandé, je suis joyeux. Si je n'ai pas ce que j'ai demandé, je suis nouveau triste. Donc il n'y a pas de joie parfaite. La joie parfaite n'est pas dans le fait de recevoir ou ne pas recevoir des choses. La joie parfaite, elle est dans le fait de réaliser que nous pouvons utiliser son nom. Bien sûr, les conséquences seront que nous verrons des résultats. Nous demandons des choses dans le nom de Jésus, nous les obtenons et bien sûr, on est content et on est joyeux. On peut se réjouir de ça. Mais la joie parfaite, elle est plus grande, elle est ailleurs. Et elle est dans, on reste dans Jean, mais cette fois-ci dans l'épître de Jean, dans la troisième épître. Épître de Jean, le verset 3, il dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. » Donc Jean écrit à quelqu'un qui s'appelle Gaius. Et il dit « J'ai éprouvé une grande joie. J'ai été fort réjoui parce que j'ai entendu des nouvelles te concernant Gaius. » Et voilà la nouvelle. C'est que des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. L'apôtre Jean se réjouit surtout de voir qu'il y a la vérité dans un de ses enfants. Ils n'ont pas ses enfants naturels, mais spirituels. Il avait déjà donc un certain âge, et puis il avait toutes ces personnes qu'il considérait comme étant ses petits-enfants. On ne savait pas quel âge il avait, mais on sait que il a vécu un âge quand même assez avancé. La révélation de l'Apocalypse, il a eu quand il était âgé. Mais donc là, il dit, ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Non seulement la vérité est en toi, parce que c'est bien que la vérité soit en toi, mais plus que ça, de la manière dont tu marches dans la vérité. C'est bien d'avoir Jésus en nous, mais c'est mieux encore de suivre ce que Jésus veut que nous fassions. Vous voyez, il y a donc une différence entre connaître la vérité et marcher selon cette vérité. C'est pour ça que certains sont malheureux. Parce que Jésus leur dit, vous êtes comme cette maison qui est construite sur le sable. Vous entendez la parole de Dieu, mais vous n'en faites rien. Alors quand une tempête arrive, vous vous écroulez comme les autres. Mais ici, il est dit, ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, mais aussi de la manière dont tu marches dans la vérité. Et il dit encore, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Donc, réfléchissons un instant. L'apôtre Jean, avec le ministère qu'il a eu, les révélations, la vie avec Jésus, il arrive vers la fin de sa vie. Et je crois que ça a quelque chose à nous dire. Quand il dit, « Je n'ai pas de plus grande joie », moi je me dis, « Eh bien, alors ça doit être la joie la plus grande. » La joie la plus grande que nous puissions expérimenter, eh bien, c'est de voir qu'il y a des gens qui marchent dans la vérité. Vous ne croyez pas? Finalement, c'est simple. C'est de voir que quelqu'un de pécheur qu'il était s'est détourné et rentre dans la famille de Dieu. Que quelqu'un qui était dans la famille de Dieu, de charnel qu'il était, commence à marcher par l'esprit. Que quelqu'un qui marche par l'esprit, eh bien, maintenant, il court par l'esprit en attendant de voler par l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? D'aller toujours plus loin, mais de marcher dans la vérité. Il n'y a pas de joie quand on voit quelqu'un marcher dans le mensonge, dans l'erreur ou dans je ne sais quoi encore. Il n'y a pas de joie. Mais c'est la joie de Dieu quand on voit quelqu'un qui se repent, quelqu'un change d'attitude, quelqu'un qui est transformé par Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait alors quand on est joyeux? Ben, on loue Dieu de dire, mais Seigneur, c'est formidable. Tu es en train de changer cette personne. Personne ne peut se changer soi-même. Et on ne peut pas changer les autres non plus. Vous ne pouvez pas me changer, n'essayez pas. Et je ne peux pas vous changer. J'ai déjà essayé. Parce que nous essayons tous d'influencer les uns les autres, des fois dans le bon sens. Mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas nous qui pouvons changer les autres. Parce que des fois, quand on veut essayer de changer quelqu'un, en fait, la personne s'en rend compte et elle fait exactement l'inverse. Vous avez déjà vu? Ça se passe dans les couples, ça se passe avec des enfants. Mais la seule façon dont quelqu'un peut vraiment être transformé, c'est par l'action de Dieu en lui. Et quand nous voyons cette transformation de témoignage de la vérité en quelqu'un et de la façon dont il marche dans la vérité, alors on peut se réjouir. Et cette joie, eh bien, c'est une joie alors spirituelle, c'est une joie surnaturelle. C'est la plus grande joie. Et ici nous avons Jean, eh bien, nous avons la même chose pour Paul aussi. On revient à nos Philippiens. Philippiens 2:2, voilà ce qu'il disait Paul. Je commence par le verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Voilà ce qu'il dit, rendez ma joie parfaite. Alors comment va-t-on faire pour que la joie de l'apôtre Paul soit parfaite? Ayez un même sentiment. Ayez un même amour. Ayez une même âme. Ayez une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ailleurs, dans une autre traduction, il est dit « Ayez en vous la pensée de Christ », la façon dont lui voyait les choses. Et voilà comment il a fait, lui. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Quelque part, il est dit aussi comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc voilà tout. Bien, si on pratique cela, l'apôtre Paul dit, alors vous rendrez ma joie parfaite. Et ça rejoint tout simplement ce que l'apôtre Jean écrivait aussi. Quand je vois que la vérité demeure en vous et que vous marchez selon la vérité, alors j'ai pas de plus grande joie. L'apôtre Paul disait, quand je vois que vous faites comme Jésus-Christ, vous avez ces sentiments, c'est-à-dire vous cherchez pas à vous élever, mais vous cherchez à vous servir les uns les autres et vous laisser remplir de cet esprit justement de service, alors eh bien vous connaîtrez la gloire. Celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Donc, c'est à considérer pour nous et soyons donc joyeux, comme le dit la parole de Dieu, tous les jours, pas seulement parce qu'il y a un chant dans l'église et qu'on est tous ensemble, ou pas seulement parce que des bonnes choses nous arrivent, mais tous les jours, apprenons à puiser dans cette force spirituelle qui est la joie de l'Éternel. Alors, à chacun de voir comment vous faites pour vous ranimer ces choses. Ranime la flamme du don qui est en toi, disait Paul à son jeune élève Timothée, qui n'était plus tellement jeune à cette époque-là, mais c'était resté son enfant dans la foi. Il disait, ranime la flamme du don qui est en toi. Ranime ces choses au quotidien. Hein? Comme ceux qui ont, je ne sais pas moi, un chauffage au bois, le matin, des fois, ça s'éteint un petit peu, il faut le ranimer, il faut mettre des combustibles. Et quel combustible nous a été donné? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Les paroles de Jésus raniment la joie en nous. Alors, des fois, on oublie même que notre nom est écrit dans le ciel. On trouve ça banal d'être chrétien. Non, ce n'est pas banal, c'est glorieux. Nous sommes la race de Dieu. Nous sommes adoptés par le Père. Et il a fait de nous ses enfants. Alors, faisons cette confession ensemble. Confession, ça veut dire, déclarons à haute voix, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Amen.